Il est 6h02 minutes. Je vous rappelle qu'il y a toujours ce bulletin météorologique spécial qui est en vigueur depuis quelques minutes, en fait. C'est un bulletin météo qui nous annonce du temps relativement accablant, si on veut, pour les secteurs de Châteauguay, La Prairie, Montréal, Laval, Longueuil, etc. Donc, une masse d'air chaud et très humide va envahir le Québec à compter de vendredi. Il sera en place jusqu'à samedi. On parle de valeurs d'humidex qui seront élevées et qui vont s'approcher de 40 degrés. Ça, c'est la perception qu'on aura, particulièrement dans les zones qui sont fortement urbanisées. Alors, pensez aux grandes villes, là, Montréal, bien sûr, mais tous les secteurs là, où il y a beaucoup d'asphalte, beaucoup de ciment, etc., là, ça, ce qu'on appelle les îlots de chaleur, ça devrait être accablant. Veillez donc, notez là, que ça va rester pendant encore une bonne période, là, c'est-à-dire jusqu'à samedi. Alors, donc, aujourd'hui, c'est quand même pas mal, quand même. On parle de nuages, 40 % de risque d'averse. Il y a aussi un risque d'orage en après-midi. C'est quand même pas si mal. 26 degrés au maximum, 35 à l'humidex. Ce soir et cette nuit, dégagement. Demain, ensoleillé, 27 degrés avec 30 à l'humidex. Et pour vendredi, 60 % de risque d'averse, 70 % en soirée, nous laissant quand même une journée ensoleillée pour samedi et 30 degrés. Mais je vous rappelle, ces facteurs humidex là, qui vont nous laisser une perception sur la peau beaucoup plus élevée. Bon, bien sûr, on en parle beaucoup et on va en parler encore plus au cours des prochains jours de ce 50e anniversaire de l'annulissage d'Apollo 11. Et donc, hier, on a souligné le départ de cette mission parce qu'avant d'allunir, il a bien fallu s'y rendre. Et hier, l'un des astronautes de la mission Apollo 11, Michael Collins, est revenu à l'endroit même où tout a commencé. C'était il y a 50 ans. Il était avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et M. Collins, qui est âgé maintenant de, je pense qu'il a 88 ans, était seul parce que, d'abord, M. Armstrong est mort il y a 7 ans et Buzz Aldrin a annulé sa participation. Il y avait un horaire assez chargé. Il faut comprendre que c'est les deux seuls qui restent de l'équipage. Alors, on les utilise, n'est-ce pas, pour souligner les événements un peu partout à travers les États-Unis. Donc, M. Collins, hier, a souligné le moment exact du décollage de la fusée Saturn V. C'était 9h32, le 16 juillet 1969. Et il s'est souvenu de la pression que ressentaient les astronautes. Pas la pression du décollage, mais bien le poids sur leurs épaules, apporté par le battage médiatique que ça avait. Première mission pour allunir. Alors, évidemment, on ne savait pas trop comment ça allait se terminer, cette aventure-là. Et on a toujours pensé que Michael Collins était un peu le négligé dans cette aventure, parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il était dans le vaisseau qui était en orbite autour de la Lune pendant que Buzz Aldrin et surtout Neil Armstrong mettaient le pied sur la Lune. Lui, il restait en train de faire le tour. Il regardait de son hublot, tout ça. Et il a raconté un peu son expérience hier lors de la conférence de presse. Il dit « On m'a toujours demandé si je n'étais pas la personne la plus seule du système solaire quand tout ça est arrivé, quand j'étais en orbite autour de la Lune. » Eh bien, la réponse est non. Il a dit « Je me sentais bien. » Écoutez bien ce qu'il faisait. Il dit « J'étais très heureux d'être là où j'étais et de voir cette mission très difficile être bien menée. Je savourais un bon petit café et j'avais de la musique. Et si je voulais, j'ai vraiment profité de tout ce temps-là, passé tout seul. » Alors, c'est un solitaire, faut croire, Monsieur Collins. Mais en tout cas, il reste que c'est un événement très important dont on va parler au cours des prochains jours, parce que là, bien sûr, les prochains jours vont souligner le fait de mettre le pied sur la Lune et la fameuse phrase de Neil Armstrong. Voilà. Alors, ça vous venait en direct de la Lune. Ils l'ont oublié là. C'est peut-être pour ça que Armstrong n'était pas là. Donc, voilà, c'est un événement important, bien sûr, pour la science et l'exploration spatiale. Dans les nouvelles un peu moins réjouissantes, il y a la suite, en fait, de ce qu'on apprenait il y a deux semaines. Vous souvenez, on en a parlé de ce centre qui appartient au CIS de Laval et qui est le théâtre, je dirais, de violence. Je pense que le mot est pas trop fort. C'est la résidence Louis Vachon, où 8 employés ont été congédiés pour avoir maltraité des patients, intimidé leurs collègues. Ce groupe d'employés aurait instauré un régime de terreur dans l'établissement, selon ce que nous apprend la presse. Et En fait, ce sont des patients vulnérables, c'est des gens qui ont des problèmes, par exemple, d'autisme, de déficience intellectuelle, qui sont incapables de fonctionner en société. Or, il y avait un groupe de travailleurs là-bas qui les maltraitait carrément, là, qui les frappait, qui les provoquait jusqu'à ce qu'ils fassent des crises pour pouvoir ensuite les frapper. Et quand des gens ont essayé de dénoncer leur comportement, ben ils se sont fait intimider, crever les pneus, puis écœurer, puis des appels à la maison, des trucs du genre. Alors, il y avait eu des arrestations la semaine dernière. Il y a 3 employés qui ont été arrêtés. On peut peut-être les nommer pour leur faire une bonne publicité. Lionel Anthony Beauplan, qui a été accusé de voies de fait. Marie Nikès Daméus et Patrick Jean Dely, qui ont aussi été accusés de voies de fait et d'agressions armées. Alors là, on a poursuivi l'enquête du côté du CIUS, du CIS plutôt, puis on s'est rendu compte que finalement, c'est plus répandu que ce qu'on croyait, de sorte qu'il y a 5 autres employés qui ont été congédiés, une 9e personne qui est aussi sous enquête et qui est toujours à l'emploi, mais sous enquête par le CIS. Alors, c'est une situation qui est loin d'être réjouissante. Et là, ben, il va falloir les remplacer, ces gens-là, en pleine pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte difficile, parce qu'on dit que travailler à cette résidence-là, c'est pas facile, parce que les cas sont lourds. Et il y a pas grand monde qui veut aller travailler dans des conditions comme celle-là. Alors, bonne chance. J'espère qu'on réussira à trouver des gens pour s'occuper de ces patients qui ont besoin de soins, qui sont bien sûr selon leur état, là, mais c'est pas évident et ça démontre qu'il y avait là-bas une ambiance épouvantable. Un dossier extrêmement intéressant ce matin dans le journal Le Devoir qui nous rappelle qu'il y a 30 ans, le Québec était secoué par une histoire qui a encore des retentissements aujourd'hui. Souvenez-vous de l'histoire de Jean-Guy Tremblay, de Chantal Daigle, toute la saga entourant le droit à l'avortement. Et donc, Le Devoir nous rappelle dans un long dossier qu'on commence à la une et qu'on poursuit en page A2 et A3, un dossier très bien ficelé, très bien monté du journal Le Devoir. Et là, on nous rappelle qu'il y a 30 ans, Jean-Guy Tremblay tentait d'empêcher son ex-conjointe Chantal Daigle d'avorter après une injonction qui interdisait à la femme de 21 ans de mettre fin à sa grossesse. Ben là, on s'était rendu jusque dans la cour, jusque devant la Cour suprême pour réclamer le droit à Chantal Daigle d'avorter. Alors, il y a des dates importantes dans cette lutte-là. D'abord, en février 89, Chantal Daigle avait emménagé à Montréal avec son conjoint de l'époque, Jean-Guy Tremblay. Elle était tombée enceinte au mois de mars. Et là, par la suite, le 3 juillet 89, ils se sont séparés et Jean-Guy Tremblay a présenté une demande devant la Cour supérieure pour empêcher l'avortement de son ex-compagne qui était prévu pour le 8 juillet. Alors, il avait obtenu gain de cause à la veille de l'avortement. Et là, ben, ça s'est retrouvé devant la Cour supérieure et la Cour supérieure a ordonné à Chantal Daigle de mener sa grossesse à terme. Et c'est là qu'on s'est adressé à la Cour suprême. Sauf que, évidemment, vous comprenez que dans un cas de grossesse, il y a des dates qui sont importantes, là. Alors, on peut pas dire on va regarder ça dans 2 ans, vous comprenez? Alors donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait ramené d'urgence les juges de la Cour suprême qui étaient en vacances. Il y en a qui étaient à l'étranger, d'autres à la pêche, etc. Et là, on les avait ramenés à la Cour suprême pour que la cause soit entendue. Et un des avocats de Mme Daigle s'appelait Robert Descaries. Et à un moment donné, les procureurs de Chantal Daigle sont devant la Cour suprême, ils commencent à plaider. Et là, ils apprennent, pendant qu'ils sont en train de plaider, que Chantal Daigle est partie aux États-Unis, est allée subir un avortement à Boston. Alors, eux autres, ils se retrouvent devant la Cour suprême, imaginez la situation, pour défendre une femme pour son droit à l'avortement, alors qu'il n'y a plus d'avortement. Ben, en fait, l'avortement est fait, donc il n'y a plus de fœtus. Donc, la Cour suprême doit se prononcer sur la vie d'un fœtus qui n'existe plus. Alors, ça a été toute une histoire et donc il a fallu finalement convaincre la Cour suprême de poursuivre la cause, même s'il y avait eu avortement, ce qui a mené à la fameuse décision rendue séance tenante à l'unanimité où on avait dit que les droits du fœtus et du père en puissance n'existent pas. C'est la Cour suprême qui avait tranché ça. C'était le 8 août 1989. Alors, si vous voulez vraiment lire l'historique de cette histoire-là, de ce feuilleton judiciaire-là, ben vous devez mettre la main sur le journal Le Devoir, qui fait un excellent résumé ce matin de toute l'histoire. Un très, très bon dossier, bien documenté et bien fait dans le journal ce matin à la une. Bon, à part ça, il y a plein d'autres nouvelles intéressantes et importantes. D'abord, si vous avez l'intention d'aller à la CEPAC, d'utiliser les services de la CEPAC au cours des prochaines semaines, ben, peut-être serait mieux de donner un petit coup de fil avant pour savoir si votre établissement de plein air est en fonction, parce que la grève dans 5 lieux de la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, n'a pu être évitée. Donc, aujourd'hui même, il va y avoir une grève. On a négocié jusqu'à hier, mais finalement, impossible d'en arriver à une entente, de sorte qu'il y a plusieurs établissements aujourd'hui là, qui vont être fermés. Il y en a 5. Je vous les nomme. Ça concerne 300 syndiqués au siège social. Donc, on parle du parc de la Chute Montmorency à Québec, le centre touristique du lac Simon, le centre touristique du lac Kénogami et le camping des Voltigeurs, où il y aura grève donc au cours de la journée d'aujourd'hui. Et là, par la suite, si on n'en arrive pas à une entente, ben ça va s'étendre aux 23 établissements de plein air, les parcs, autrement dit, de la CEPAC. À la CEPAC, on dit qu'il y a un plan de contingence qui a été mis en place. Ça veut dire que les activités vont se poursuivre. Ce seront vraisemblablement des cadres qui vont prendre la relève. Mais là, le syndicat a lancé un appel. On dit, allez pas engager des SCAB, là. Parce qu'on va vous surveiller. Alors, à la CEPAC, on dit qu'on allait respecter le code du travail et qu'il n'y aurait pas d'embauche. Ce serait assez ironique quand même qu'une société d'État embauche des SCAB et qu'on revienne aux lois qu'elle a édictées elle-même. Alors, ce serait assez étonnant quand même. Et bien sûr, il y a toutes ces histoires d'écrasement d'avions qui se sont produits dans nos forêts au cours des derniers jours, des dernières semaines. 13 personnes ont été victimes d'accidents aériens dans la forêt boréale au cours des dernières semaines. Au moins 6 sont mortes, et 6 autres manquent à l'appel. Le plus récent écrasement est survenu hier, un hydravion d'Air Saguenay qui comptait 7 personnes à bord dans une zone isolée du Labrador. 3 personnes ont été retrouvées à l'intérieur de la carlingue de l'avion, un Beaver qui datait de 1966. Mais si vous connaissez un peu l'aviation, vous savez que le Beaver, même si c'est un vieil appareil, ça demeure un avion extrêmement fiable et généralement, dans à peu près tous les écrasements, l'avion n'est jamais en cause. Alors, dans ce type d'accident, c'est souvent des erreurs humaines. On parlera un petit peu plus tard au président d'Air Saguenay, M. Jean Tremblay, qui va nous donner les derniers détails parce qu'on n'a toujours pas retrouvé 4 des occupants de cet avion qui s'est écrasé hier.